Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et après, vous pouvez également écouter l'histoire du jubi et la mise au point. Pour le programme suivant, nous allons présenter le magazine culturel Persona Indonesia et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous pouvez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La collaboration de recherche sur la diversité des espèces est nécessaire pour les pays asiatiques. Selon le président Joko Widodo, nous luttons la pêche illégale et nous protégeons les ressources maritimes. L'Indonésie optimise la réunion de IORA sera productive. Le vice-président Yusuf Kala a déclaré que la lutte contre la corruption ne devait pas empêcher l'économie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Les pays asiatiques ont beaucoup de diversité des animaux avec des espèces différentes. On espère que cette diversité peut devenir une source de recherche conjointe pour les pays en Asie pour produire des recherches durables. Cela a été déclaré par le chercheur dans le domaine de la biologie de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, M. Amir Hamidi, dans le symposium international « La diversité des espèces de vertébrés asiatiques » ou AVIS, qui a eu lieu au Centre de recherche de biologie LIPI à Bogor, Jawa West. Les pays asiatiques ont une grande diversité des mammifères, des oiseaux, des poissons, des amphibiens et des reptiles. Concernant la question, nous aurons besoin de plus de scientifiques, notamment les jeunes générations, pour étudier la biodiversité de leur propre pays. L'étude sur la diversité des espèces ne connaît pas la frontière politique. Par conséquent, nous devons renforcer la collaboration pour obtenir des recherches approfondies et satisfaisantes. Le symposium international de la diversité des espèces de vertébrés asiatiques ou AVIS est participé par les participants de l'Indonésie, la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, la Chine, la Malaisie, le Myanmar, le Vietnam et l'Inde, organisé du 24 jusqu'au 28 octobre 2016. Les participants sont attendus à établir la coopération de recherche à la fois individuellement et inter-institutions, y compris de partager des connaissances sur la diversité des espèces de leur pays respectif. Le gouvernement continue à appliquer le concept des objectifs de développement durable qui respectent l'environnement. Depuis l'année dernière, l'Indonésie commence à réaliser le plan de développement à moyen terme 2015 jusqu'à 2019. Cela a été déclaré par le président Joko Widodo à l'ouverture de l'Assemblée réunion 17 organisations internationales de l'Agence de contrôle des institutions ou INTOSAI du groupe de travail sur la vérification environnementale à Jakarta le mardi. Selon le président Joko Widodo, les efforts indonésiens dans la réalisation de pratiques de développement durable déjà contenues dans le plan de développement à moyen terme 2015 jusqu'à 2019, qui est en ligne avec le développement durable de l'environnement. Basé sur le plan de développement à moyen terme, selon le président, le gouvernement indonésien a déterminé la base juridique qui sert de guide pour tous les partenaires et les parties prenantes en Indonésie dans la mise en œuvre de développement durable. Le président Joko Widodo est convenu que l'objectif de développement durable est l'engagement mondial qui doit être réalisé ensemble. Mais il a rappelé que l'état de chaque pays n'est pas le même, donc on a besoin d'une solution spécifique en conformément à la situation de chaque pays dans la mise en œuvre de développement durable. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le directeur général pour l'Asie Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Desra Percaya, a ouvert la 18e réunion de la commission des autres fonctionnaires de l'Association des États riverains de l'océan Indien, ou IORA, mardi à Nusa Dua, Bali. Dans son discours, Desra a expliqué son optimisme que l'Indonésie, en tant que président de IORA, dans les réunions IORA à Bali, serait en mesure de produire un projet d'accord qui serait approuvé au sommet mondial de IORA 2017. Selon lui, les pays participants de IORA avaient eu une conversation, alors on souhaite que l'objectif convenu puisse être atteint.
On the preparation for the summit, I hope
dans le cadre de la préparation du sommet, j'espère que nous aurons une discussion productive sur les thèmes qui peuvent être proposés pour le projet d'ordre du jour de la réunion des leaders de IORA l'année prochaine. Nous serons prêts à présenter des propositions concrètes à la fin de cette réunion. L'Indonésie est actuellement le président de IORA pour la période 2015 jusqu'à 2017 sur le thème « Renforcement de la coopération maritime pour l'océan Indien étant pacifique, stable et prospère ». En tant que pays situé au carrefour de l'océan Indien et l'océan Pacifique, l'Indonésie encouragera la coopération maritime et le renforcement de la diplomatie économique dans la région de l'océan Indien. Ceci est en ligne avec la vision de l'Indonésie en tant que l'axe maritime du monde. La direction de l'Indonésie sera également utilisée pour développer la région de l'océan Indien comme un nouveau centre de croissance par la coopération de IORA. Le vice-président Yusuf Kalla a rappelé que la lutte contre la corruption ne doit pas empêcher l'économie, car il y aura un large impact sur la société. Il a été déclaré par le vice-président Yusuf Kalla à Yogyakarta le mardi. Il a donné son discours au sommet anticorruption 2016 qui a eu lieu à Gedung Graha Sabha Pramana à l'Université Gajah Mada, Yogyakarta. Et selon elle, la raison de cette crainte, les fonctionnaires lentes à prendre des décisions. Selon lui, l'Indonésie a un but, à savoir la prospérité et la justice. Pour la prospérité économique, il faut courir vite. Par conséquent, on a besoin de l'harmonisation pour que l'économie soit en cours et la corruption éradiquée, de sorte que les effets secondaires ne sont pas grands. Divers efforts pour réduire la corruption ont été faits par le gouvernement dans différentes époques et aujourd'hui par la Commission pour l'éradication de la corruption, ou KPK. Beaucoup de fonctionnaires qui ont été condamnés à cause de la corruption. Le vice-président a déclaré que l'éradication de la corruption pouvait être faite avec l'engagement et des exemples de dirigeants ainsi que l'amélioration du système. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les Nations Unies refusent de porter l'entièrement responsabilité liée à l'épidémie de choléra qui a frappé Haïti depuis environ 6 ans. » L'ONU a affirmé avoir une responsabilité morale d'aider Haïti à faire face à la catastrophe de choléra qui est prétendument apportée par les casques bleus qui ont la tâche d'aider ce pays à faire face à l'impact du tremblement de terre en 2010. Mais l'ONU refuse si elle est légalement considérée comme responsable et néglige les procès des victimes de choléra. Depuis que l'épidémie a éclaté en 2010, 9300 Haïtiens sont morts et 800 000 sont touchés. Des études scientifiques montrent que les troupes de l'ONU népalais sont la source de l'épidémie. Prétendument de déchets de camp entrés dans la rivière en raison de mauvaises conditions d'hygiène. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et seulement 24% de ses citoyens ont accès à des toilettes et seulement quelques familles ont accès à l'eau potable. Les chercheurs ont détecté le premier choléra existe dans la vallée de Artibonite, le siège des troupes népalaises. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a reconnu l'ONU comme un propagateur de l'épidémie de choléra en Haïti par courrier électronique soumis par son porte-parole Farhan Haq à l'agence de presse le jeudi 18 août 2016. À la suite de l'épidémie de choléra, les Haïtiens qui sont victimes de l'épidémie de choléra ont déposé une demande d'indemnisation des milliards de dollars américains à l'ONU au tribunal de New York le mercredi 9 octobre. Ce procès a également été rejeté par un tribunal aux États-Unis en rapport avec les règles de l'immunité diplomatique pour tous les personnels des Nations Unies. Le refus de l'ONU d'être responsable de l'épidémie de choléra en Haïti ne reflète pas la fonction de protection de l'ONU qui fournit une protection à tous les membres. De plus, l'épidémie de choléra est causée par une force de maintien de la paix des Nations Unies qui sont envoyées en Haïti. En tant que l'organisation internationale, l'ONU doit envoyer une aide médicale comme l'ONU envoyait des soldats de la paix dans le pays en conflit. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 26 octobre. Nous commençons avec Cachemire a fusionné avec l'Inde. Le 26 octobre 1947, suite à l'indépendance de l'Inde du Royaume-Uni et la séparation du Pakistan de l'Inde, les zones stratégiques de Jammu et Cachemire ont rejoint l'Inde et le plan précédent, Jammu et Cachemire, dont la majorité de population est musulmane, vont entrer au territoire du Pakistan. Toutefois, l'autorité régionale sur la provocation du Royaume-Uni et l'Inde a pris une décision au contraire à la volonté du peuple et a préféré de rejoindre l'Inde. Ensuite, le président de la Corée Sud, Park Chung-hee, est mort tué par le chef de Korean Central Intelligence Agency, Kim Jae-kyu. Le président de la Corée Sud, Park Chung-hee, a été abattu le 26 octobre 1979. En dépit apportant le progrès économique en Corée Sud, de 1960 au 1970, il a été accusé d'être un dirigeant autoritaire. Park Chung-hee devenait président de la Corée Sud après un coup d'état militaire le 16 mai 1961. Il a contribué à la modernisation du pays grâce à l'industrialisation orientée vers l'exportation. Sous son règne aussi, les relations de la Corée Sud avec les États-Unis devenaient plus serrées après Park a accepté d'envoyer des troupes sud-coréennes pour aider les États-Unis dans la guerre du Vietnam. Le dernier, le 26 octobre 2010, l'éruption du volcan Merapi. Le volcan Merapi, qui est situé à Yogyakarta, est l'un des volcans actifs en Indonésie, a éclaté émettant des nuages déchirants. L'éruption du mont Merapi a endommagé plusieurs villages autour du mont Merapi et tué des dizaines de villageois autour du pied de la montagne. L'un d'entre eux est Mbah Marijan. Il a reçu le prix de la culture 2011 du gouvernement de la province Yogyakarta dans la catégorie des écologistes, coutumes et traditions. Le prix a été décerné par le secrétaire provincial de Yogyakarta, Ihsan Nuri, le 29 novembre 2011 dans le quartier Kepatihan, Yogyakarta. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre, Java West organise le festival forestier. Les produits forestiers non bois qui peuvent être gérés et utilisés comme une source économique de la communauté forestière sont plus prometteurs que les produits du bois. C'était une chose soulignée et illustrée dans le deuxième festival forestier de Java West en 2016. Le festival a eu lieu au parc naturel Linggarjati, au village Linggarjati, quartier Cilimus, en région Kuningan, samedi et dimanche 22 et 23 octobre 2016. Ce festival forestier est un agenda annuel du gouvernement provincial de Java West. Le premier festival forestier de Java West était tenu en 2015 au parc forestier Juanda, Bandung. Le deuxième festival forestier de Java West 2016 était ouvert par le gouverneur de Java West, Ahmad Heriawan, représenté par le directeur du bureau forestier et de la plantation de Java West, Budi Susatyo. Le directeur du bureau forestier et de la plantation de Kuningan, en tant que chef du comité organisateur du festival, Bunbun Budiasa, a dit, par l'intermédiaire d'une telle activité, son côté va affirmer sur le grand potentiel des ressources forestières pour l'autonomisation de la communauté. Selon Bunbun, ce festival pouvait devenir l'événement amical pour échanger des informations et se transmettre le succès expérience l'un et l'autre. On souhaite aussi que ce festival puisse être un événement de promotion et de transaction. En outre, le festival peut être un moyen pour encourager les parties à développer l'avenir de la gestion forestière qui se concentre sur l'acquisition de produits forestiers non bois. Par exemple, les services de voyage, de sorte que le concept de conservation a persisté. Cependant, le gouverneur de Java West, Ahmad Heriawan, dans son discours, a souhaité que ce festival puisse améliorer la performance des parties au secteur forestier dans la création de l'emploi, augmenter le bien-être public autour des forêts en maintenant la préservation forestière. Le deuxième festival forestier de Java West était rempli par de diverses activités, y compris le séminaire de forêts préservées ensemble avec l'organisation de la communauté de village forestier, la représentation d'art, l'exposition de divers produits forestiers non-bois et le bois traité de PME dans nombre de régions et villes à Javovès, par exemple, café, fourmis de sucre sous forme de sucre de palme en poudre, le miel, les champignons, le thé de la forêt, l'huile de patchouli et les semences cultivées de la communauté forestière. La région de Kuningan, Aceh Purnama, a souhaité que la mise en œuvre de ce festival devienne la part de procès d'éducation vers le développement forestier à Javovès, qui est mieux dans le présent et l'avenir. Aceh Purnama a déclaré que Kuningan, comme région de conservation, continuera à être maintenue, même renforcée avec les règlements qui seront sous forme de réglementation locale. Cher ami, c'était la mise au point.
Les pays asiatiques ont beaucoup de diversité des animaux avec des espèces différentes. On espère que cette diversité peut devenir une source de recherche conjointe pour les pays en Asie pour produire des recherches durables. Cela a été déclaré par le chercheur dans le domaine de la biologie de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, M. Amir Hamidi, dans le symposium international « La diversité des espèces de vertébrés asiatiques » ou AVIS, qui a eu lieu au Centre de recherche de biologie LIPI à Bogor, Javovès. Les pays asiatiques ont une grande diversité des mammifères, des oiseaux, des poissons, des amphibiens et des reptiles. Concernant la question, nous aurons besoin de plus de scientifiques, notamment les jeunes générations, pour étudier la biodiversité de leur propre pays. L'étude sur la diversité des espèces ne connaît pas la frontière politique. Par conséquent, nous devons renforcer la collaboration pour obtenir des recherches approfondies et satisfaisantes. Le Symposium international de la diversité des espèces de vertébrés asiatiques, ou AVIS, est participé par les participants de l'Indonésie, la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, la Chine, la Malaisie, le Myanmar, le Vietnam et l'Inde, organisé du 24 jusqu'au 28 octobre 2016. Les participants sont attendus à établir la coopération de recherche à la fois individuellement et inter-institution, y compris de partager des connaissances sur la diversité des espèces de leur pays respectif. Le gouvernement continue à appliquer le concept des objectifs de développement durable qui respectent l'environnement. Depuis l'année dernière, l'Indonésie commence à réaliser le plan de développement à moyen terme 2015 jusqu'à 2019. Cela a été déclaré par le président Joko Widodo à l'ouverture de l'Assemblée réunion 17 organisations internationales de l'Agence de contrôle des institutions ou INTOSAI du groupe de travail sur la vérification environnementale à Jakarta le mardi. Selon le président Joko Widodo, les efforts indonésiens dans la réalisation de pratiques de développement durable déjà contenus dans le plan de développement à moyen terme 2015 jusqu'à 2019, qui est en ligne avec le développement durable de l'environnement. Basé sur le plan de développement à moyen terme, selon le président, le gouvernement indonésien a déterminé la base juridique qui sert de guide pour tous les partenaires et les parties prenantes en Indonésie dans la mise en œuvre de développement durable. Le président Joko Widodo est convenu que l'objectif de développement durable et l'engagement mondial qui doit être réalisé ensemble. Mais il a rappelé que l'état de chaque pays n'est pas le même, donc on a besoin d'une solution spécifique en conformément à la situation de chaque pays dans la mise en œuvre de développement durable. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le directeur général pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Desra Percaya, a ouvert la 18e réunion de la commission des autres fonctionnaires de l'Association des États riverains de l'océan Indien, ou IORA, mardi à Nusa Dua, Bali. Dans son discours, Desra a expliqué son optimisme que l'Indonésie, en tant que président de IORA, dans les réunions IORA à Bali, serait en mesure de produire un projet d'accord qui serait approuvé au sommet mondial de IORA 2017. Selon lui, les pays participants de IORA avaient eu une conversation, alors on souhaite que l'objectif convenu puisse être atteint. Dans le cadre de la préparation du sommet, j'espère que nous aurons une discussion productive sur les thèmes qui peuvent être proposés pour le projet d'ordre du jour de la réunion des leaders de IORA l'année prochaine. Nous serons prêts à présenter des propositions concrètes à la fin de cette réunion. L'Indonésie est actuellement le président de IORA pour la période 2015 jusqu'à 2017 sur le thème « Renforcement de la coopération maritime pour l'océan Indien étant pacifique, stable et prospère ». En tant que pays situé au carrefour de l'océan Indien et l'océan Pacifique, l'Indonésie encouragera la coopération maritime et le renforcement de la diplomatie économique dans la région de l'océan Indien. Ceci est en ligne avec la vision de l'Indonésie en tant que l'axe maritime du monde. La direction de l'Indonésie sera également utilisée pour développer la région de l'océan Indien comme un nouveau centre de croissance par la coopération de IORA. Le vice-président Yusuf Kalla a rappelé que la lutte contre la corruption ne doit pas empêcher l'économie, car il y aura un large impact sur la société. Il a été déclaré par le vice-président Yusuf Kalla à Yogyakarta le mardi. Il a donné son discours au sommet anticorruption 2016 qui a eu lieu à Gedung Graha Sabha Pramana à l'Université Gadjah Mada, Yogyakarta. Et selon elle, la raison de cette crainte, les fonctionnaires lentes à prendre des décisions. Selon lui, l'Indonésie a un but, à savoir la prospérité et la justice. Pour la prospérité économique, il faut courir vite. Par conséquent, on a besoin de l'harmonisation pour que l'économie soit en cours et la corruption éradiquée, de sorte que les effets secondaires ne sont pas grands. Divers efforts pour réduire la corruption ont été faits par le gouvernement dans différentes époques et aujourd'hui par la Commission pour l'éradication de la corruption, ou KPK. Beaucoup de fonctionnaires qui ont été condamnés à cause de la corruption. Le vice-président a déclaré que l'éradication de la corruption pouvait être faite avec l'engagement et des exemples de dirigeants ainsi que l'amélioration du système. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous introduisons l'une des destinations touristiques à Jambi. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Jambi, qui est située à l'île Sumatra, a de diverses destinations touristiques qui sont aussi belles que d'autres provinces. Un domaine à Jambi est le district Kerinci, qui a le parc national Kerinci Seblat. Dans la région, il y a de diverses destinations touristiques, des montagnes au lac. L'un des lacs étant connu comme la perle cachée dans l'ombre du parc national Kerinci Seblat est appelé lac Kacho. Le nom du lac Kacho vient de la langue de la communauté locale, ce qui signifie « le vert ». Ainsi nommé parce que le lac Kacho a l'eau bleue très claire. Le lac est situé à une altitude de 1289 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lac Kacho est petit, avec une superficie d'environ 30 fois 30 mètres. Malgré petit, ce lac peut présenter sa beauté parmi les arbres à l'alentour. Le lac a aussi un mystère, car il peut émettre une lumière à la nuit, surtout pendant la pleine lune. Par conséquent, il y a beaucoup de touristes qui passent la nuit pour le voir. Fait intéressant, certains chercheurs ont tenté de trouver des réponses à ce phénomène, mais le mystère reste le mystère, car au cours d'une plongée, l'oxygène est toujours épuisé avant de réussir à toucher le fond du lac. La communauté locale a un mythe sur l'origine de la naissance du lac Kacho. Une fois, il y avait une belle princesse qui veut être courtisée par de nombreux jeunes hommes. Sans aucun doute, ils fournissent des pierres précieuses sur le père de la princesse, le roi Gagak, comme le trésor de proposition. Cependant, l'avidité fait le roi accepter toutes les propositions de toutes les jeunes. Intrigué, le roi a noyé sa fille dans le lac avec le trésor de proposition. Jusqu'à présent, la communauté locale croit encore que les pierres précieuses sont toujours stockées au fond du lac. On nécessite environ 2 heures pour aller de la ville Sungai Penuh vers le lac Kacho. Le voyage du parc national Kerinci Seblat vers le lac Kacho n'est pas facile. Les voyageurs doivent se promener dans les bois autour de 4 heures. Malgré assez lourd, la beauté naturelle qui est présentée peut alléger le fardeau pendant le voyage. Les grands arbres, le chant des oiseaux endémiques, les bambous luxuriants et des ruisseaux clairs accompagnent le voyage de touristes. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien. Le sujet aujourd'hui est Pergi ke pasar modern. Je répète, pergi ke pasar modern, ou en français, aller au marché moderne. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement 2 fois et vous le répétez après moi. Pergi ke pasar modern. Pergi ke pasar modern. En français, aller au marché moderne. Selamat siang. Selamat siang. En français, bonjour. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? En français, comment vas-tu? Hari ini, hari ini. En français, aujourd'hui. Sangat baik. Sangat baik. En français, très bien. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? En français, et toi? Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Hendak pergi ke mana? Hendak pergi ke mana? En français, tu vas aller où? Pasar modern. Pasar modern. En français, le marché modern. Mau membeli apa? Mau membeli apa? En français, tu veux acheter quoi? Buah. Buah. En français, le fruit. Mangga. Mangga. En français, la mangue. Melon. Melon. En français, le melon. Alpukat. Alpukat. En français, l'avocat. Belimbing. Belimbing. En français, la carambole. Membuat jus buah. Membuat jus buah. En français, fait du jus. Di mana letak pasar modern? Di mana letak pasar modern? En français, où se trouve le marché modern? Tidak jauh dari rumahku. Tidak jauh dari rumahku. En français, pas loin de chez moi. Kira-kira. Kira-kira. En français, environ. Menemanimu. Menemanimu. En français, t'accompagner. Silakan. Silakan. En français, s'il te plaît. Ou bien, s'il vous plaît. Dengan senang hati. Dengan senang hati. En français, avec plaisir. Mari kita pergi bersama. Mari kita pergi bersama. En français, allons-y ensemble. Chers amis, maintenant on va mettre ces vocabulaires et les expressions dans une conversation. Cette conversation entre Nina A et Lucy B au bureau. A. Selamat siang, Lucy. Selamat siang, Lucy. En français, bonjour, Lucy. B. Selamat siang, Nina. Selamat siang, Nina. En français, bonjour, Nina. A. Bagaimana kabar kamu hari ini? Bagaimana kabar kamu hari ini? En français, comment vas-tu aujourd'hui? B. Sangat baik. Bagaimana denganmu? Sangat baik. Bagaimana denganmu? En français, très bien. Et toi? A. Baik juga. Terima kasih. Baik juga. Terima kasih. En français, je vais aussi bien. Merci. B. Kamu hendak pergi ke mana? Kamu hendak pergi ke mana? En français, tu vas aller où? A. Saya ingin pergi ke pasar modern. Saya ingin pergi ke pasar modern. En français, je vais au marché modern. B. Kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? En français, tu veux acheter quoi? A. Aku mau membeli buah mangga. melon, alpukat, dan belimbing. Aku ingin membuat jus buah. Aku mau membeli buah mangga. En français, je veux acheter des mangues. Melon. En français, melon. Alpukat. En français, avocat. Dan belimbing. En français, et carambole. Aku ingin membuat jus buah. En français, je veux faire du jus. B. Di mana letak pasar modern? Di mana letak pasar modern? En français, où se trouve le marché moderne? A. Tidak jauh dari rumahku, kira-kira 400 meter. Tidak jauh dari rumahku, kira-kira 400 meter. En français, pas loin de chez moi, environ 4 meter. B. Apakah aku boleh menemanimu? Apakah aku boleh menemanimu? En français, est-ce que je peux t'accompagner? A. Silakan dengan senang hati. Silakan dengan senang hati. En français, s'il te plaît, avec plaisir. B. Baiklah, mari kita pergi bersama ke pasar modern. Baiklah, mari kita pergi bersama ke pasar modern. En français, d'accord, allons-y ensemble. Voilà cette édition du programme Apprendre l'Indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Merci à tous et à bientôt.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis des quatre coins du monde. Comment allez-vous? Nous espérons que vous soyez en bonne santé et écoutez notre programme musical de la voix de l'Indonésie en langue française. Cette fois, nous allons présenter un chanteur populaire dans les années 80 qui s'appelle Ikang Fauzi. Il est un chanteur qui est populaire avec son vocal qui est unique. Son père, qui est un musicien de la musique hawaïenne, est aussi un compositeur. Dans les années 80 jusqu'à 90, une chanson rock-pop intitulée « Preman Preman » chantée par Ikang Fauzi est très célèbre. Bon, chers amis, écoutons maintenant la première chanson intitulée « Preman Preman » chantée par Ikang Fauzi.
Mom. pekerjaan sangat sukar juga pendidikan. Sudut-sudut jalanan banyak pengangguran, jadi preman untuk cari makan.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons indonésiennes chantées par Ikang Fauzi. Et c'était la première chanson intitulée Preman Preman. Ikang Fauzi, avec son ami qui s'appelle Adi MS, a sorti quelques albums intitulés Bonsoir, Randy et Cindy, Preman et The Very Best of Ikang Fauzi. Il a reçu aussi le prix comme le meilleur chanteur de rock en 1987. Son album intitulé Bonsoir se compose de 10 chansons, 8 entre eux arrangées par Adi MS. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée Bonsoir, chantée par Ikang Fauzi.
Surya bertanda senja, takkan lama lagi fajar pun menghilang. Malam datang bersama sepi, perasaan hampa. Angin malam meniup lembut rambutku. Kita akan melewati
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Bonsoir » chantée par Ikang Fauzi. Et avant de terminer cette émission, on va écouter deux chansons intitulées « Air Api » et « Gadis Centris ». Tous les deux sont chantés par Ikang Fauzi. Merci à tous et à demain. Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.